À Paris comme à Avignon, il est 16h. 14h temps universel, retrouvez Charlotte Hydrac. Bonjour Charlotte.
Bonjour. À la une, les grandes manœuvres en France en vue du second tour des législatives dimanche et la vague bleue marine du Rassemblement National. À gauche, le nouveau Front Populaire appelle à faire barrage à l'extrême droite. Dans le camp présidentiel en déroute, la stratégie des désistements ne fait pas l'unanimité. Les résultats officiels provisoires de la présidentielle en Mauritanie. Ça y est, le président sortant Mohamed Oulcher El Razouani est réélu dès le premier tour, selon la commission électorale, avec plus de 56% des voix. Son principal rival, Biram Dahabeid, a déjà dit qu'il ne reconnaîtrait pas les résultats. À suivre aussi la Hongrie, à la tête du Conseil de l'Union européenne, à partir d'aujourd'hui et pour 6 mois, présidence incarnée par l'eurosceptique Premier ministre Viktor Orban. Et puis le décès d'une figure des lettres européennes, l'écrivain albanais Ismail Kadare. Dans son œuvre, il n'a cessé de décortiquer les mécanismes du totalitarisme. Pour lui, vous l'entendrez, un lieu symbolisait la liberté, les cafés. Demain, mardi, 18h, c'est la prochaine étape cruciale des législatives en France après le premier tour. Les candidats encore en lice devront déclarer leur maintien ou leur retrait. Ce qui est en jeu maintenant, ce sont les potentiels triangulaires dans plus de 300 circonscriptions. Et les désistements ont déjà commencé en vue de ce scrutin du 7 juillet, de dimanche. Le nouveau Front Populaire de gauche a été très clair. Il appelle les candidats arrivés troisième à jeter l'éponge pour faire barrage à l'extrême droite. Le Rassemblement National, grand gagnant de l'élection d'hier du premier tour avec plus de 33% des voix. L'extrême droite est donc aux portes du pouvoir, Pierrick Bonneau. Alors est-ce que le RN pourrait passer cette porte et entrer à Matignon ?
Sur le papier, les réserves de voix du Rassemblement National sont très réduites en vue du second tour. Pour parvenir à la majorité absolue dimanche prochain, le parti a peu de marge de manœuvre. Il espère attirer dans ses filets deux catégories d'électeurs qui n'ont pas voté RN au premier tour, ceux qui ne veulent pas élire un député de la France insoumise et les déçus des désistements en cours entre la gauche et la coalition présidentielle. Et si le Rassemblement National acceptait finalement de former un gouvernement, même sans majorité absolue, l'hypothèse fait surface ces dernières heures. Le patron du RN a éludé la question ce matin en arrivant au siège du parti, mais plusieurs cadres frontistes ne ferment pas la porte. Sébastien Chenu notamment, réélu dès le premier tour hier soir, il laisse entendre chez nos confrères de France 2 que le RN assumera ses responsabilités si d'autres députés venaient à soutenir une possible majorité relative. Les regards se tournent évidemment vers les LR qui n'ont pas déjà rejoint le Rassemblement National. Certains chez nous ont tellement envie de gouverner qu'il serait prêt à tout, nous confiait juste avant la dissolution un député de droite.
Dans le camp présidentiel qui n'a recueilli qu'environ 20% des suffrages, tout le monde ne parle pas d'une même voix sur la stratégie. L'ancien Premier ministre Édouard Philippe ou le ministre de l'économie Bruno Le Maire rejettent des désistements au profit de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Les législatives françaises qui font réagir à l'étranger, le Kremlin, à Moscou notamment, dit suivre les tendances très attentivement, sachant que l'extrême droite française est régulièrement accusée de proximité avec Moscou. Le Premier ministre polonais Donald Tusk, lui, évoque un grand danger pour la France et pour l'Europe.
Je n'ai pas besoin de dire à qui que ce soit à quoi ressemblera l'Europe si dans quelques temps, des personnes favorables à Poutine, des personnes anti-ukrainiennes, des personnes pour lesquelles il ne fait aucun doute qu'elles utilisent également le pouvoir pour l'argent, des personnes pour lesquelles le modèle de cette démocratie traditionnelle est inacceptable, des personnes qui rejettent cette démocratie européenne traditionnelle, si de telles personnes devaient prendre le pouvoir en Europe, cela commence vraiment à ressembler à un grand danger. Non seulement les résultats du premier tour des élections françaises, mais aussi des informations sur l'influence russe et des services russes dans de nombreux partis radicaux de droite en Europe.
Voilà le premier ministre polonais, Donald Tusk. Réaction aussi à Berlin, la chef de la diplomatie allemande. Elle indique que la victoire du Rassemblement national au premier tour des législatives en France ne peut laisser personne indifférent. Et puis en Italie, la chef du gouvernement d'extrême droite, Giorgia Meloni, Meloni se réjouit et elle estime, elle, que la diabolisation de l'extrême droite ne fonctionne plus. Dans ce contexte de poussée des populismes en Europe, c'est la Hongrie qui assure la présidence tournante du Conseil de l'UE à partir d'aujourd'hui et pour 6 mois. Présidence incarnée par l'eurosceptique Premier ministre Viktor Orban, ce qui pose un certain nombre de questions. Le Premier ministre hongrois est proche du Kremlin, malgré la guerre en Ukraine. Ses positions sur l'immigration ou l'état de droit, tout ça, ça crée un malaise à Bruxelles. Mais le chercheur Lucas Masek relativise. Il souligne que le rôle de cette présidence tournante est avant tout d'ordre symbolique et donc cela ne va pas chambouler le fonctionnement de l'Union européenne.
Il y a à la fois une importance symbolique, il y a une visibilité, il y a une capacité effectivement à influencer l'agenda du Conseil, tout ça c'est des choses importantes, mais fondamentalement ce n'est pas une présidence, une présidence coordonne davantage, communique, mais n'a pas un pouvoir formel réel. Donc de ce point de vue-là, je ne m'attends pas à ce que cette présidence change fondamentalement les choses. Elle ne va pas changer les rapports de force tels qu'ils existent. Mais c'est vrai qu'elle donnera une visibilité au gouvernement hongrois et à Viktor Orban en particulier, plus grande que d'habitude.
Le chercheur Lucas Masek avec Julien Chavanne. La Hongrie, de son côté, a promis d'agir en tant que médiateur impartial, je cite. Un coup KO pour Mohamed Oulcher El Razouani en Mauritanie. D'après la CENI, la commission électorale, le président sortant est réélu dès le premier tour de la présidentielle avec 56,12% des voix. Résultat officiel provisoire qui confirme ceux déjà publiés sur le site internet de la CENI Léa Breuil.
Avec un peu plus de 56% des voix selon les résultats provisoires après le dépouillement de tous les bulletins, l'actuel chef d'État obtient la majorité absolue dès le premier tour. L'opposant Biram Nahabed, lui, arrive en seconde position, comme lors de la dernière présidentielle, mais cette fois avec un peu plus de 22% des voix contre 19% en 2019. Il a déclaré hier lors d'une conférence de presse qu'il ne reconnaîtrait pas les résultats de la commission électorale qu'il accuse d'être instrumentalisé par le pouvoir et dénonce une fraude électorale. De son côté, le candidat islamiste du Tawassul, premier parti d'opposition à l'Assemblée nationale, Hamadi Oulsid El Mokhtar se classe 3e avec légèrement moins de 13% des voix. Les autres candidats ne réalisent eux que des scores en dessous de 4%. L'avocat Elid Mohamedine est 4e avec 3,5% des voix, suivi du candidat de la JDMR Mamadou Bokar Ba et du professeur Outouma Soumaré qui obtiennent un peu plus de 2% des voix. Enfin, Mohamed Lemine El Ouavi, ancien candidat à la présidentielle, ne dépasse pas les 1%. Ces résultats provisoires doivent encore être transmis pour validation au Conseil constitutionnel après examen d'éventuels recours. Léa Breuil, Nouakchott, RFI.
Attaqué et représailles dans la bande de Gaza, la branche armée du djihad islamique a revendiqué ce lundi le tir d'une vingtaine de roquettes vers Israël. L'État hébreu a répliqué avec des frappes dans le sud du territoire. Par ailleurs, des dizaines de prisonniers palestiniens, dont le directeur de l'hôpital Al-Shifa de Gazaville, ont été libérés par l'État hébreu. Dans une vidéo, le directeur, donc le docteur Mohamed Abou Salmiya, détenu pendant plus de 7 mois, accuse l'État hébreu de torture. Il disait trouver dans la littérature l'espoir de tout surmonter. L'écrivain albanais Ismail Kadare, il est décédé à Tirana en Albanie. Il avait 88 ans. Il aura consacré son œuvre à décortiquer les mécanismes de la tyrannie et du totalitarisme. Il avait rompu avec le régime de Tirana et Ismail Kadare avait obtenu l'asile politique en France en 1990. Depuis quelques années, il vivait entre les deux pays. Et en 2017, il était l'invité de Catherine Fréchon-Toussaint pour la sortie de son livre « Matinée au café Rostand », café parisien où il avait pris ses habitudes, le café comme un symbole de liberté pour Ismail Kadare.
L'Albanie, c'est un pays qui avait beaucoup de café, toujours. Même maintenant, j'ai lu il y a quelques jours dans la presse, Tirana, c'est parmi les capitales européennes qui a le plus grand nombre de cafés. J'ai écrit dans mon livre que pendant le régime communiste, les cafés, ils ont perdu un peu leur mystère, etc., parce que le régime n'aimait pas.
Oui, ça veut dire que le café, c'est un espace qui symbolise la liberté, oui, la création artistique.
La liberté de penser, de parler, de dire les choses pas officielles, les choses qui changeaient beaucoup de langage de la presse, de meeting, de conférence, de plénum, etc. Le café, c'était beaucoup plus humain, toujours.
Ismaël Kadaré avec Catherine Fruchon-Toussaint en 2017. Et puis le foot, l'euro et les bleus, qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur après un début de compétition un petit peu poussif. Rendez-vous face à la Belgique tout à l'heure, 8e de finale à partir de 16h, temps universel.